mars 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Je réponds aux questions, puis nous allons essayer après de revenir une dernière fois. Je ne veux pas rester trop longtemps sur ce problème de l'individuation, quoique c'est un problème extrêmement important. Il ne faut pas l'oublier. Pouvez-vous rapidement nous expliquer ce qu'est le situ ? Très bien. Ça fait partie des prédicaments, ça. Le situ, c'est un des prédicaments, c'est la partie par rapport au tout. Une détermination de la partie par rapport au tout. Vous êtes dans un certain situs ici, la place que vous avez par rapport au tout, et puis par rapport à l'atmosphère, par rapport au cosmos. Hein. Vous avez un situs. On n'a pas le même situs si on est au Cameroun ou en France. Donc on change de situs à ce moment-là. Je ne sais pas ce que ça fait comme changement, mais ça change de situs. Ça fait un petit changement. Mais parce que si on est plus proche de l'équateur, on est plus loin de l'équateur. Ça, alors vous voyez, c'est très lié au lieu. C'est pas la même chose que le lieu. Ça qui serait intéressant à voir. Le situs, c'est plus par rapport au... Le lieu aussi, c'est par rapport au tout, d'une certaine manière. Mais le lieu, c'est plus... On est mesuré par le tout. Tandis que le situs, c'est plus les conséquences, en quelque sorte, du lieu par rapport à notre organisation interne. Ça se voit pour le vivant, si vous voulez. Le vivant, si tu... Je ne dis pas plus, hein, parce qu'on ne va pas entrer là-dedans. Ça fait partie des prédicaments, c'est une chose intéressante et importante. Une des différences entre la forme et la notion, n'est-ce pas que la forme est dans la réalité, tandis que la notion est dans notre intelligence. Ah, la notion est aussi dans la réalité, hein. Attention. Ça, c'est le cours, évidemment, de théologie naturelle. Ça fait rien. Le tout est dans tout. N'est-ce pas ? Alors, vous avez la forme détermine. La forme est dans la réalité, c'est évident. Je dirais plutôt que... Chaque fois qu'on doit préciser les choses, on prend le grec. Hein. Bon. Dans le fait, on regarde la matière. La forme morphée. Et puis la forme ergos. Petite distinction intéressante qu'Aristote prend. La forme eidos, c'est la forme idée. Idée vient de l'idée de eidos. Et morphée la forme. Alors, la forme détermine la matière. C'est très vrai que la forme a quelque chose de plus immédiatement dans la réalité. Détermine la matière. Le propre de la forme, c'est déterminer la matière. L'eidos, c'est la forme face au nous, face à l'intelligence. Toute forme possède son intelligibilité. C'est pour ça que c'est l'unité. C'est l'intelligibilité fondée dans le réel qui détermine l'intelligence. Voilà la ratio. C'est la raison. Ce que l'intelligence saisit. Oui, mais c'est dans la réalité, c'est pas uniquement dans l'intelligence. Formellement, c'est dans l'intelligence et fondamentalement dans la réalité. C'est pour ça qu'on dira, par exemple, que l'intelligibilité est propriété de la réalité. Toute réalité possède son intelligibilité. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligibilité ? C'est ce que saint Thomas appellera le vrai ontologique. Du moins, ce que le scolastique appellera le vrai ontologique. Et ce que saint Thomas appellera tout simplement le vrai. Pas la vérité. La vérité, c'est déjà une formalisation du vrai. Ça pour que vous arriviez petit à petit à entrer dans ce langage. Hein. Et puis après, on doit pouvoir le communiquer aux autres avec un langage moderne, ce qui est très difficile. Alors, il faut faire un petit exercice comme ça. Ça fait partie de l'exercice de l'assouplissement de l'intelligence. Hein. Alors vous voyez comment morphée et eidos se tiennent. Je dirais eidos, la ration est contenue dans la forme. La forme a quelque chose de plus que la ratio. La ratio, c'est le contenu bien déterminé d'intelligibilité de la forme. Et ceci, c'est pars polus. Donc, dans cette relation de polus. Tandis que la morphée, c'est face à la matière. La forme, c'est face à la matière. Je ne sais pas si vous voyez bien. N'est-ce pas que la forme est dans l'arité, tout à fait juste, la forme est dans l'arité et déterminable. Tandis que la notion est dans notre intelligence. Oui, elle est dans notre intelligence quand elle est formellement pensée, tandis que quand elle est bien prise. Mais elle est fondamentalement dans la réalité. C'est la forme face à l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui saisit dans la forme son contenu intelligent. Le contenu intelligible de la forme, c'est la ratio. Le contenu intelligible de la forme, c'est la quiddité. Et c'est le contenu intelligible. C'est cela que nous pourrons définir. C'est cela qui sera le contenu de la définition. C'est toujours ces deux aspects, vous voyez, l'aspect objectif et l'aspect subjectif. La réaction que nous avons vis-à-vis d'une réalité. La connaissant, elle nous détermine. En tant qu'elle nous détermine, son intelligibilité est principe de détermination et de spécification par rapport à notre intelligence. Petit à petit, on arrive à préciser ces termes. Saint Thomas jongle là-dedans, il faut arriver petit à petit à faire qu'on est à l'aise là-dedans. Pourriez-vous expliquer comment, en fonction du situs, de la quantité, de la forme substantielle et du nombre, on pourrait dire que dès sa conception, l'homme a une âme spirituelle. On verra ça. Parce que ça, c'est déjà c'est la reprise qu'on va prendre. Ça. Alors, dernier, peut-on dire que le suicide est une tentative, c'est un petit peu différent, mais ça, oui, c'est l'individu. C'est l'individu qui devient insupportable, le suicide. Vous voyez. Alors, pourrait-on dire que le suicide est une tentative pour se couper radicalement de l'être et de la pensée? Donc, par là, peut-on dire que le mal, en tant qu'il conduit certains esprits à l'irrémédiable, peut agir dans notre intellect et le couper de toutes les lumières philosophiques justes et vraies et de toutes les lumières théologiques? Oui, celui qui a une tentation de suicide ne pense pas beaucoup à ça. Mais c'est vrai. De se couper de toutes les lumières philosophiques. C'est une chose. Bon. Il faudra une fois parler du suicide, mais c'est plus en morale qu'en philosophie, qu'en métaphysique. En métaphysique, non. En morale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la situation limite de l'homme. Et je crois qu'il faut ramener le suicide à la situation limite de l'homme. C'est quand on voit qu'il n'y a plus d'issue. Qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, parce que c'est une impression, c'est une imagination. Il y a toujours une issue. Et la seule issue, c'est de revenir à la finalité. Mais quand le poids du conditionnement humain est tellement fort qu'on ne voit plus d'issue. Alors on est engouffré, on est pris, saisi. Oui. Et alors, à ce moment-là, comme le conditionnement semble victorieux sur la finalité, on veut précipiter les événements. C'est un phénomène de précipitation des événements, celui-ci. C'est pour ça qu'on est comme attiré Et c'est pour ça que Freud parlera d'un instinct de mort. En réalité, c'est pas du tout, il n'y a pas d'instinct de mort. C'est très faux de dire un instinct de mort. C'est contradictoire, un instinct de mort. C'est contradictoire, il ne peut pas y avoir un instinct de mort. Mais il peut y avoir cette espèce d'attraction vers le néant. Ce que saint Thomas appelle vertibile ad nihilum. J'aime beaucoup l'expression de saint Thomas. Le vertige vers le néant. C'est un vertige. C'est très très différent, c'est pas un instinct de mort. C'est un vertige. Subitement, on a tous eu l'expérience, du moins si vous ne l'avez pas eu, vous l'aurez un jour en vieillissant, vous aurez l'expérience de ce que représente le vertige. Subitement, on est comme attiré. Alors on dit attention, attention. Hein. Il ne faut pas regarder trop, on commence à avoir les jambes qui flageolent. On va se précipiter dans la chose. Alors le vertige, le vertibile ad nihilum, le vertige, on est attiré. C'est une attraction. L'attraction du néant. Alors ça, oui, il y a une attraction du néant quand ? Alors, la situation, c'est dans la situation limite. La situation limite de Jaspers, c'est Jaspers qui a inventé la situation limite. C'est un médecin, Jaspers. Un médecin qui est devenu philosophe. Ce qui est bon, tous les médecins qui sont dignes de ce nom doivent devenir philosophes, n'est-ce pas? Parce que la médecine nécessairement conduit à la philosophie. Il y a des liens qui ont toujours existé entre la médecine et la philosophie, entre la biologie et la philosophie. Toujours. C'est normal. Parce que c'est le vivant, et quand on étudie l'homme, ça ne peut pas être autrement. Alors, il y a cette espèce de vertige vers le néant. Quand on est en situation limite. La situation limite, c'est tout simplement quand le conditionnement est tellement lourd en fonction d'une précipitation des événements, qu'à ce moment-là, on ne voit plus comment en sortir. C'est la bête traquée. Alors, on peut être traqué. La bête traquée fait qu'on se précipite à toute vitesse. Plus vite, on a pas. Vous voyez, c'est un manque de force à ce moment-là, on n'a plus la patience. La patience, c'est la force. La patience, on endure. Hein. On tient bon. Parce qu'on sait qu'il y a la petite lumière au bout du tunnel. Alors, au bout du tunnel, il y a la petite lumière. Mais quand le tunnel tourne, il n'y a plus de lumière. Et l'enfant pleure. On a tous fait cette constatation. On n'aime pas de ne plus rien voir du tout. Il faut au moins une petite lumière. Alors quand la petite lumière disparaît, alors on se précipite. Et à ce moment-là, on est prêt à se précipiter à toute vitesse. Vous voyez, le vertige du néant. Et le vertige du non-être, c'est quelque chose de très fort qui nous attire et qui peut nous attirer. Mais ce n'est pas l'instinct de mort. Si je prends instinct au sens fort, vous voyez, ce que font, c'est imaginatif. C'est un phénomène imaginatif. C'est un phénomène imaginatif qui provient de la situation limite. Alors, la situation limite, encore une fois, prenez l'exemple très simple de la neige. C'est toujours l'exemple que je prends, parce que je crois que c'est ça qui fait le mieux comprendre. Ceux qui ont vécu à Fribourg, parce qu'ici, on a moins l'exemple, mais ceux qui ont vécu à Fribourg savent très bien, dès qu'il y a les premières neiges, toute la ville est au ralenti. Quand la neige tombe beaucoup plus fort et qu'on est pris dans une tornade de neige, à ce moment-là, ça devient grave. On n'a plus la direction. On doit se mettre à faire ce qu'on peut. Le conditionnement commence à déterminer. On est pris par la tornade. Et puis, si on est pris par une avalanche, c'est toujours la même neige. Alors, si on est pris par une avalanche, on est saisi, situation limite. Est-ce qu'on arrivera à dépasser? On ne sait pas. Est-ce qu'on arrivera à trouver un petit lieu lumineux? On ne sait pas. Vous voyez? Alors on est pris par cette espèce d'avalanche qui nous saisit, qui nous prend. Et alors l'avalanche, quand il nous prend, fait qu'il n'y a plus possibilité de respirer. Alors, je crois que transposer ça au point de vue psychique, au point de vue moral, au point de vue notre conditionnement humain, là nous comprenons comment il peut y avoir à certains moments cette espèce d'angoisse qui nous saisit, et l'angoisse conduit alors à se vertibile ad nihilum. Et l'expression de saint Thomas est très belle. C'est que nous portons en nous un poids de néant. Vous voyez ce que ça veut dire? Nous portons en nous un point de néant. Les mystiques, Catherine de Sienne dit, pour la créature, le néant est antérieur à l'être. Vous comprenez ce que ça veut dire, le ex nihilo. On est créé à partir de rien. Non, c'est pas vrai qu'on est pas, le rien, ça n'existe pas. Donc, quand Catherine de Sienne dit que le néant est avant la créature, ça veut dire que dans l'amour de Dieu, l'amour est avant la créature. Et que nous, de notre côté, il y a toujours une potentialité radicale qui est antérieure à la détermination. Ce que le vieil Aristote dit, que la puissance est antérieure à l'acte lorsqu'on est dans le devenir, pour l'individu. La puissance est avant l'acte. La puissance radicale, c'est le non-être. Et donc, elle est antérieure. Et ça explique ce vertige. Quand, de fait, la finalité n'est plus présente. Il faut analyser nos petites angoisses, hein, ou nos grandes angoisses. Il faut les analyser. Pour nous, philosophiquement, c'est important. Et puis, c'est un moyen de les dépasser. Parce que c'est l'analyse qui nous aide. L'intelligence doit nous aider. L'intelligence doit aider pour faire une analyse et comprendre ce que c'est que ce que représente ce vertibulé annihilé. Alors, nous allons continuer, si vous voulez, cette recherche de l'individu comme tel, essayer de comprendre ce que c'est que cet individu. Je ne vais plus, j'ai simplement situé le point de vue de Don Scott, de Suarez, je ne crois pas que je vais aller beaucoup plus loin. Je vous avais dit de plus, c'est là, donc, quand Suarez montre que saint Thomas, malgré son autorité, n'a pas très bien saisi. Alors, je vous avais dit, c'est un des moments intéressants, parce que c'est très rare que Suarez critique saint Thomas. Mais là, il le fait. Il le fait, et c'est intéressant de voir que c'est à propos de l'individu, donc les rapports entre le point de vue de la matière et le point de vue de la forme. Dans la section suivante, Suarez montre que si l'on considère que l'existence n'est autre que l'entité actuelle de toute réalité, voilà comment il définit l'existence n'est autre que l'entité actuelle de toute réalité, alors on peut dire que l'existence est principe d'individuation. Mais parler ainsi, c'est s'exprimer en termes obscurs et ambigus. En réalité, pour Suarez, le principe d'individuation ne peut être l'existence ou la subsistance, il reste que la substance singulière n'a besoin d'aucun autre principe hors de son entité ou des principes intrinsèques dont son entité se compose. En effet, si une telle substance considérée physiquement est simple, elle est individuée d'elle-même et par sa simple entité. Et si elle est composée, par exemple, de matière et de forme, les principes de son unité comme de son entité, sont la matière, la forme et leur union. Et ainsi, ce sont ces mêmes qui, pris dans l'individu, sont principes de son individuation. Par contre, ceux-là étant simples, seront individués par eux-mêmes. Donc au fond, autrement dit, Suarez rejette le problème de l'individuation. Tout simplement, c'est trop difficile. Alors on dit que ça revient tout simplement. Et voyez l'histoire, c'est très très joli comme histoire. Il part du principe. Cherchez un principe d'individuation, vous n'en trouverez pas. Et Suarez a raison de dire, il n'y a pas de principe d'individuation. C'est la matière, la forme et leur union. Au niveau des principes, Suarez oublie qu'après avoir cherché les principes, on doit chercher le comment. Le pose. Suarez n'a pas de raison. Il n'y a pas de principe d'individuation, mais il y a un pose. Le comment. Comment la substance composée peut-elle être individuée? Vous voyez, c'est pour ça que je cite ce principe, ce passage-là, parce qu'il est intéressant. Il nous fait comprendre comment, si vous vous mettez dans la recherche d'un principe propre d'individuation, vous n'en trouverez pas. Il semble à Suarez, parfaitement clair que le fondement de l'unité ne peut se distinguer de l'entité elle-même. Donc c'est l'entité qui est individuée, c'est tout. Alors vous voyez que c'est très grave, parce qu'à ce moment-là, on ne regarde plus la distinction entre le comment et le qui est-ce qui. Donc la question du principe. Il n'y a plus de distinction entre les principes propres et la manière dont ils existent. Donc, on ne regarde plus la réalité telle qu'elle est. On fait des principes le tout de l'être. Vous voyez comme c'est grave. L'intelligibilité se ramène à l'être. Si l'intelligibilité se ramène à l'être, vous êtes dans une perspective idéaliste. Il veut rester réaliste, c'est bien évident. Mais en réalité, il confond la recherche des principes et la recherche des comment. C'est nécessairement ne plus garder le réalisme suffisant. La réalité existant dans son individualité est plus que les principes, fruit de l'analyse. Autrement dit, jamais une analyse, si poussée qu'elle soit, sera adéquate à la réalité existante. La réalité existante possède en elle quelque chose de plus que l'analyse que vous en faites, au point de vue intelligible. C'est pour ça que vous devez tout le temps venir à la réalité. Parce que si les principes propres, si les principes que vous découvrez dans la réalité sont adéquats à la réalité, vous n'avez plus besoin de regarder la réalité. Et vous restez dans vos principes. Et rester dans ces principes, c'est nécessairement, à ce moment-là, une attitude idéaliste. Une fois, le père Garrigou-Lagrange, je le prends parce que c'était un exemple que j'ai constaté, c'était à propos d'un couvent. On lui avait montré les plans. Puis on lui dit, maintenant c'est réalisé. Le père Garrigou a dit, ah, c'est pas la peine d'aller voir, j'ai vu les plans. C'est du Suarez. Et Bergarou ne savait pas qu'en disant ça, il était du Suarez. C'est exactement ce que dit Suarez. La connaissance des principes donne la connaissance de l'entité concrète. On ne dira jamais ça. Mais on dira, mais quand même, c'est quand même pas la même chose de regarder les plans et de regarder la réalité, du moins pour moi, c'est pas la même chose. Regardez les plans très bien, c'est très important de regarder les plans. Mais la réalité, alors vous allez vous effacer, mettre votre main sur les yeux, dire j'ai regardé les plans, c'est beaucoup plus propre que la réalité. Parce qu'il n'y a pas de bavure dans les plans, vous comprenez. Tandis que dans la réalité, il y en a toujours un peu. C'est impossible autrement. C'est l'individuation. Au niveau artistique, je crois que c'est facile à comprendre que l'idée que vous avez d'une chose, le projet que vous avez d'une chose, eh bien, c'est jamais la réalité telle qu'elle sera réalisée. Très net. Ce qui est vrai dans l'ordre de l'art est vrai aussi dans l'ordre proprement de la réalité. Et la réalité est toujours plus que les principes que vous avez de cette réalité. C'est ça le réalisme. Vous voyez ? Alors là, vous voyez bien l'idéalisme de Suarez, hein. Je crois que c'est très très net. Il semble à Suarez parfaitement clair que le fondement de l'unité ne peut se distinguer de l'entité elle-même. C'est pourquoi, comme l'unité individuelle, pro formali, ne peut rien ajouter de positif et de réel à l'entité individuelle, parce que quant à cela, elle a la même ratio que toute l'unité, ainsi le fondement positif de cette unité, quant à la négation exprimée, ne peut rien ajouter de positif, physiquement parlant, à l'entité qui est dénommée une et individuelle. Donc cette entité est par elle-même fondement de cette négation. Et c'est en ce sens que cette opinion affirme que l'entité est elle-même principe d'individuation. Je crois que c'est assez net de comprendre cela, que l'analyse que je fais de la réalité, matière, forme, union, explique tout. Ça explique l'intelligibilité que vous avez de la réalité, mais ça n'explique pas ce que représente l'unité concrète de la réalité. L'individu est ineffable. Tous les anciens ont dit ça, ils ont raison de dire ça. L'individu est ineffable. Quand on dit que l'individu est ineffable, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'il y a dans tout individu quelque chose de plus que l'analyse que vous avez faite de cet individu. Une analyse philosophique des différents principes. Et c'est pour ça que vous devez tout le temps venir à la réalité concrète. Vous partez de la réalité concrète, vous saisissez les principes, vous saisissez la complexité de cette réalité et vous revenez à cette réalité pour comprendre comment cette réalité, elle existe dans la complexité. Ce serait intéressant de regarder comment Jean de Saint-Thomas regarde le problème de l'individuation. Ceux qui s'intéressent pourront regarder dans le livre 449, page 449, pour essayer de comprendre. Il faudrait regarder aussi, alors, le problème de l'individualité chez Hegel. Ce serait très intéressant. Vous savez bien que c'est un des grands problèmes de l'hegelianisme, de voir comment l'universel doit devenir concret, il doit devenir singulier. Comment progressivement l'intelligibilité absorbe le réel. Alors c'est la démarche inverse, c'est très curieux. Comment l'individualité doit absorber le réel concret. Et tout le processus dialectique est fait pour cela. C'est extraordinaire. C'est intéressant à voir ça, c'est très intéressant. Le propos de Hegel, comme historien philosophe, c'est de reconnaître dans l'histoire les voies de la providence, ses moyens, ses manifestations, et de les ramener à ce principe général. Dans l'histoire universelle, l'esprit atteint la réalité la plus concrète. Donc il faut que le concret soit absorbé par l'idée. C'est extraordinaire comme vision. Il y a pour Dieu. Hegel se met à la place de Dieu. Dieu peut, par la contemplation qu'il a de lui-même, atteindre le réel existant dans ce qu'il a de plus concret. Mais vous voyez, on part de Dieu, on ne parle pas de l'idée. C'est la seule différence. Il y a Dieu qui peut partir de lui-même. Autrement dit, l'être de Dieu est plus concret que l'être de la créature. L'être de Dieu est plus singulier que la singularité de la créature. De sorte que Dieu, en se contemplant, contemple la réalité telle qu'elle existe. Mais Dieu n'est pas une idée. Si je pars de l'idée, je voudrais rejoindre le réel concret. Que la synthèse du général, de l'être en soi et pour soi, avec l'individuel et le subjectif, est l'unique vérité. C'est de la spéculation qui, sous cette forme générale, est traitée en logique. Mais dans le cours de l'histoire universelle, même, cours qui progresse encore, la pure fin dernière de l'histoire n'est pas encore le contenu du besoin et de l'intérêt, et sans que celui-ci en soit conscient, le général est cependant enfermé dans les fins particulières et s'accomplit par elles. Cette même question se présente aussi comme synthèse de la liberté et de la nécessité. Si nous considérons la marche intérieure de l'esprit en soi et pour soi comme la chose nécessaire, et par contre, si nous attribuons à la liberté ce qui, dans la volonté consciente des hommes, apparaît comme leur intérêt. Vous voyez, c'est ça qui me semble intéressant, parce qu'il donne alors, ça donne au problème concret, individuel, une force qui fait rejoindre par le devenir l'être. On rejoint toujours la même chose. Hein. C'est la distinction du devenir et l'être. chez Hegel, l'individu est absorbé par l'idée. C'est, je crois, cela. C'est pousser l'idéalisme qui doit rejoindre le réel. C'est dans ce sens-là que la distinction idéaliste et réel n'existe plus. Chez Platon, on part de la forme idéale, mais la forme idéale existe. Elle est ce qu'il y a de plus concret. Et par là, on regarde les réalités individuelles. Chez Hegel, on part de l'idée pour absorber l'individu. Donc, vous voyez, nous touchons là, et je crois que c'est ça qui est important à voir, nous touchons là un problème philosophique extrêmement intéressant que le théologien, parce qu'il faut bien voir que c'est le théologien qui a mis ça en pleine lumière. Parce que chez Aristote, nous l'avons vu, le problème est regardé, mais on ne peut pas dire qu'Aristote a traité le problème de l'individu pour lui-même. Il a simplement compris, et c'est peut-être dans les analytiques qu'on le voit mieux, que toute connaissance philosophique, scientifique, part de l'expérience et rejoint l'expérience. Mais dans les analytiques, partant de l'expérience. Toute connaissance scientifique digne de ce nom part de l'expérience. L'expérience nous fait découvrir les castors. C'est-à-dire ce que chacun est en lui-même. C'est bien l'individu. C'est ce que chacun est en lui-même. Le taux d'éthi est en plus le problème de Pierre qui reçoit toutes les attributions. Tandis que les castors, c'est vraiment ce que chacun est en lui-même. C'est ce que nous atteignons par l'expérience. Par l'expérience, nous atteignons un individu qui existe. Et nous partons de là. La science n'est pas la science des possibles. Aristote laisse ça aux mathématiques. Mais la science philosophique, qui pour lui est la vraie science, il ne faut pas l'oublier, la philosophie n'est parfaitement science et je veux dire, la science est parfaitement science que quand elle est philosophique. Le mot science a pris, au cours de l'âge, des significations nouvelles. Mais nous avons le droit de regarder dans Aristote ce que représente le point de vue de la science. Donc, on parle de l'expérience. On saisit progressivement le diesti, c'est-à-dire le point de vue du principe, en comprenant qu'il y a deux niveaux de diesti. Le niveau quidditatif, au niveau générique, et le niveau quidditatif au niveau des principes propres. Toujours se rappeler ça. Le tiesti, à l'interrogation du tiesti, vous avez deux niveaux d'intelligibilité. L'intelligibilité quidditative générique, l'intelligibilité quidditative des principes propres. 1, 2. Et c'est la confusion de ces deux niveaux que la scolastique décadente a faite. Pas étonnant, ça a passé entre deux par la théologie. Alors c'est pas étonnant, la théologie n'a pas distingué toujours ces deux niveaux. Mais au point de vue philosophique, il faut absolument distinguer ces deux niveaux. Le niveau quantitatif générique, c'est-à-dire la connaissance par genre. Différence spécifique qui conduit à une définition. Et qui conduit à une définition de l'espèce. Parce que c'est l'espèce qu'on définit. Or, Aristote le sait, il n'y a qu'une seule espèce que vous connaissez. L'homme. C'est suffisant. C'est suffisant, il suffit de connaître l'homme. Tous les autres, mais quand même relativement à l'homme. La seule espèce que vous pouvez définir, c'est l'homme. Vous ne connaissez pas l'espèce du cheval, du rat, du chat. Non. Vous avez des cérébes, c'est tout. La seule espèce que vous connaissez et que vous pouvez définir. Donc la définition regarde l'espèce par différents genres et différents spécifiques. C'est un type de connaissance. C'est le premier type de connaissance qui est pré-scientifique. la définition par genre et différence spécifique n'est pas philosophique. Elle n'est pas scientifique. Elle est pré-scientifique. C'est la connaissance que nous pouvons tous avoir. La connaissance que nous voyons dans les dictionnaires, que nous voyons dans toutes les manières de définir quelque chose, genre et différence spécifique. La science commence par la saisie des principes propres, qui se fait grâce à l'induction. Alors, à ce moment-là, nous avons une nouvelle connaissance qui est au-delà de la connaissance quiditative générique. C'est la connaissance par genre et différence spécifique. Cette connaissance est analogique. Tandis que celle-ci est univoque. La connaissance par genre et différence spécifique est univoque. C'est en ce sens qu'elle n'est pas philosophique. Elle est univoque. Bien la différence entre l'attribution univoque et l'attribution analogique. L'attribution univoque, c'est lorsque vous attribuez le même nom à diverses réalités avec la même signification. Vous attribuez animal à chat et à chum. Même signification. Le chat est un animal, le chameau est un animal. N'est-ce pas ? Et l'homme aussi. De temps en temps, c'est du côté du chat. De temps en temps, c'est du côté du chameau. Vous voyez, mais c'est l'homme. Il est un animal. Vous voyez. Alors, ça, c'est l'attribution univoque. L'attribution analogique, c'est lorsque le même mot est attribué avec des significations différentes. Vous dites Dieu est bon, l'homme est bon, le chat est bon, et le chameau est bon. La bonté a une signification différente quand vous l'attribuez à Dieu, quand vous l'attribuez à chameau, quand vous l'attribuez à l'homme. Et c'est ce que vous appelez l'attribution. C'est pour ça qu'il y a toujours, quand il s'agit d'une attribution à l'homme, il y a du plus et du moins. Il y a des modalités diverses. Les modalités sont diverses. Alors, cette connaissance des principes propres, qui est d'essayer d'aller le plus loin possible dans l'intelligibilité la réalité. Je ne m'attarde pas à l'intelligibilité par genre et différence spécifique, c'est assez grossier. C'est quelque chose qui reste quelque chose des formes et puis c'est tout. Tandis que lorsque j'atteins les principes propres, j'atteins quelque chose de beaucoup plus profond. Quand j'atteins ces principes propres, je veux savoir comment ces principes propres se réalisent, existent dans les questions. Alors ça, c'est le comment. Comment ces principes propres se trouvent réalisés? J'ai saisi comme principe propre l'ousia, c'est-à-dire la substance, principe propre de ce qui est, selon la forme. Je me pose la question, comment cette substance subsiste? Comment cette substance existe dans la réalité? Vous voyez, je n'ai jamais quitté, c'est ça qui est très important à comprendre, je n'ai jamais quitté le contact avec le jugement d'existence. Tandis que lorsqu'il s'agit du genre et différence spécifique, je l'ai quitté. C'est pour ça que c'est pré-philosophique. La connaissance par genre et différence spécifique est une connaissance qui n'implique pas en acte le point de vue du jugement d'existence. Tandis que la connaissance des principes propres implique en acte le principe du jugement d'existence. C'est deux abstractions différentes. On dira qu'ici, il s'agit d'abstraction universelle et ici, l'abstraction formelle. C'est comme ça que saint Thomas les dénomme. C'est ça comme langage de saint Thomas. N'est-ce pas ? C'est pas la peine d'en employer aujourd'hui parce que c'est des choses qui sont ad intran, si vous voulez, la cuisine ad intran. La cuisine thomiste à d'autres. C'est abstraction formelle, abstraction. Il faut savoir, pour ceux qui lisent saint Thomas, pour quand on lit saint Thomas, il faut savoir ce que saint Thomas dit. Donc il faut savoir les expressions de saint Thomas. Ce qui est important, c'est de comprendre. Parce que ça, c'est des expressions qui n'existent pas dans Aristote. Aristote ne l'a pas employé. Je comprends très bien qu'il ne l'ait pas employé. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout besoin de l'employer pour nous. On peut simplement dire, mais oui, il y a une connaissance par genre et différence spécifique, et une connaissance par principe propre. La connaissance quiditative, la définition, ne revient pas au comment. Je me pose jamais la question comment une définition existe. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas au niveau. Pourquoi ? Parce que je suis loin du jugement d'existence. Tandis que le jugement d'existence restant en acte dans le principe propre, je me demande comment ça existe. Ça, c'est très très important de comprendre ça, parce que ça fait comprendre comment la scolastique, genre Suarez, la scolastique est décadente à partir de Suarez. N'oubliez jamais ça. Et c'est la scolastique qui commande tout le thomisme moderne. C'est Suarez. Et c'est pour ça que cette scolastique n'est plus intelligible. Le bon père Garrigou Lagrange, dire, en disant des choses comme ça, ça montre très bien qu'il n'a pas compris la différence entre les deux. Quand je suis dans l'ordre de la connaissance par genre et différence spécifique, je suis dans une connaissance abstraite, universelle, et je ne me pose, j'aboutis à la définition. Je ne me pose jamais la question comment une définition existe. Ça n'a pas de sens. Une définition, c'est un terme. C'est tout. Très bien, c'est pour classer. Au point de vue logique, c'est très important. Je reste dans la logique. Vous voyez, je reste ici au niveau logique. Et en logique, je n'ai pas besoin de me poser comment ça existe. Parce que la logique n'existe pas, sauf dans l'intelligence. Elle n'existe pas dans la réalité. Elle n'existe que dans l'intelligence. C'est pour ça que la définition n'existe que dans l'intelligence. Ça n'existe pas dans la réalité. Tandis que les principes propres existe dans la réalité. C'est toute la différence qui existe entre la définition et les principes propres. Les deux manières dont on saisit le réel. D'un côté, je le saisis d'une manière logique, et d'une autre manière, je le saisis d'une manière philosophique. C'est quand même très important de saisir les deux. Et évidemment, à partir de Occam, et Suarez, là, a avalé un tout petit peu trop de doses homéopathiques, Camille, alors il ne sait plus. Il ne sait plus. Et alors, ne sachant plus, pour lui, la définition, c'est la définition. Alors, on ne voit plus la différence entre les deux. Tandis que si je saisis les principes propres, je suis toujours en liaison avec le jugement d'existence. Le jugement d'existence n'est pas explicite dans la saisie des principes, mais en acte. Je ne peux pas saisir un principe propre d'un possible, mais je peux définir un possible. Mais un possible ne peut pas, il n'y a pas de jugement propre. C'est impossible. Le jugement propre est toujours lié au jugement d'existence. C'est le jugement propre à la garde d'une réalité existante, un Castor. Et c'est pour ça que je peux revenir à cette réalité pour saisir comment elle existe. Et j'essaie de saisir comment elle existe. Eh bien, c'est tout le problème qui se pose ici, maintenant, vous voyez. Je reprends point de vue philosophique, indépendamment de ma topique, j'essaie de comprendre, ayant saisi ce que c'est que l'ousia, la substance. La substance comme principe propre, selon la forme de ce qui est. Donc, le noyau fondamental dans l'ordre de la détermination au niveau de l'être. Et je le saisis par rapport à moi-même, c'est ça qui m'intéresse. C'est mon problème de ma propre existence. Je reviens donc à la réalité pour essayer de saisir comment cette ousia existe-t-elle dans ma réalité. Donc je reviens à un aspect d'expérience. Le problème de l'épistole, c'est toujours lié à l'expérience. Le problème de l'individu, il est lié à l'expérience. Ce n'est pas un problème abstrait. C'est l'être concret. L'être concret, c'est l'épistole. L'être concret de Forest, hein, d'Aimé Forest. C'est justement le point de vue de Castone. Alors, je reviens à cette réalité dans la lumière du principe propre, c'est-à-dire dans la lumière de l'ousia. Et je vois que l'ousia n'existe pour moi que dans la composition d'un être complexe, extrêmement complexe, puisque l'homme est l'être le plus complexe qui existe parmi toutes les différences que j'ai. Donc, une complexité extraordinaire, c'est la première chose que je dirais. L'individu, il est d'une complexité invraisemblable. C'est vrai. tous mes accidents font partie de mon individualité. Mais je vais chercher qu'est-ce qui, dans cette complexité, alors les complexités, c'est facile de l'énoncer. Je reprends tous les prédicaments. Je reprends toutes les qualités, toute la quantité, tout ça. Ça fait partie de ma complexité. Énumérez votre complexité. Pour essayer ensuite de comprendre ce phénomène particulier qui existe, c'est que je vois que je passe par des états très divers depuis l'état embryonnaire que j'ai connu, dont je n'ai plus la mémoire. Mais je sais que j'ai été dans cet état embryonnaire, puisque je le vois pour les autres, donc je le dis pour moi-même. C'est une bonne charité. Donc j'ai été dans cet état embryonnaire. Puis je suis né, je ne m'en souviens plus, si vous vous en souvenez encore, notez-le aujourd'hui, parce que c'est très important, ça disparaîtra peut-être demain. Donc il faut, je suis né, puis oui, j'ai grandi, puis à un moment donné, j'ai eu peut-être un petit peu conscience de ce que je faisais, et puis j'ai de plus en plus conscience, ma tête grossit, et j'ai de plus en plus conscience de ce que je suis, et je commence à faire de la philosophie. Pour faire que cette conscience soit un peu plus claire. J'ai eu des étapes très très diverses. Et c'est toujours le même individu. Il faut donc essayer de découvrir, réductiver. Vous voyez la méthode réductiver. Il faut donc, c'est pas du tout l'induction. Il faut donc découvrir, réductiver. Ça m'intéresse de voir ça, parce que c'est peut-être par là que je vais saisir la méthode phénoménologique. Se réductiver, qui existe chez saint Thomas. Et saint Thomas ne crie pas gare. Parce que saint Thomas, les méthodes, hein, c'est très secondaire. Hein, c'est les...